Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Nicolas, bonjour, pardon, bonjour Olivier.
Moi c'est Olivier,
bonjour,
oui.
Bonjour Nicolas Bouzou, merci d'être
bonjour.
Avec nous. Bonjour à nos auditeurs, bonjour Justine bonjour. Qui nous accompagne.
Bonjour à tous, oui c'est Mediapolis avec Catherine Ney qui est avec nous en ligne. Et je suis en studio avec en régie notre réalisateur Jean-Luc Arblade et à côté de lui notre chère Capucine Patouillet qui a préparé l'émission, animée en compagnie comme d'habitude de Justine Holman et avec pour invité un économiste, un essayiste, un esprit libéral et libre. Il s'appelle Nicolas Bouzou, il est directeur de la société d'études économiques Asterès et auteur de « Inventons la mondialisation de demain » aux éditions de l'Observatoire, paru le 21 avril dernier. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Et pour commencer, comme d'habitude, Nicolas, pas Bouzou, Canteloup.
À Lille, les écologistes et les socialistes ne feront pas d'alliance pour les municipales. Martine Aubry est donc en danger pour sa réélection. Bonjour Martine Aubry. Mais alors Martine Aubry, ça faisait longtemps.
Oui, alors bon, déjà, ça y est, c'est démarré. Alors déjà, merci de me recevoir. Cela fait longtemps qu'on ne m'avait pas vu.
Oui,
merci Madame Leclerc. Je regrette que les écologistes, en tout cas, n'aient pas souhaité un accord avec nous à Lille. Et je dois dire...
Mais les écolos, de toute façon, c'est tous des têtes de con.
Gérard Collomb, mais c'est vous, hein, Gérard Collomb, le maire de Lyon, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, non, je disais, vous m'avez coupé. C'est des têtes de con, les écolos. Je le dis à Martine, il va juste pourvoir pour eux tout seul, voilà, diriger seul à Lyon, tu sais. Martine, ils m'ont fait le même coup. Ils veulent saccager Lyon en y plantant des arbres, en faisant pousser du quinoa sur des toits végétalisés, en roulant trottinette ou en skateboard. C'est crasseux à drap de loc. Mais il existe une solution. Fais comme moi. Fais une alliance avec la droite, Martine.
Gérard, je suis socialiste. Je ne vais pas m'associer avec la droite. Allons, ce n'est pas ma culture.
Allons, Martine. Mais moi aussi, j'étais socialiste. Mais tu préfères être socialiste et au chômage ou de droite et avec un emploi?
Oh là là. Dark Vador.
Rejoins-moi à droite, Martine. Réside le pouvoir. Rejoins-moi du côté obscur de la force politique.
C'était avec Julie Leclerc, Nicolas Canteloup, Gérard Collomb, Dark Vador, tous réunis mercredi matin sur Europe 1. On va parler, Nicolas Bouzou, dans quelques instants avec Catherine Ney de ses alliances municipales et peut-être de la très faible présence médiatique des élections municipales, ce qui est un peu étonnant. Mais pourquoi ? Parce que les médias, quand même, ont tous une logique de focalisation. Et quand on peut se concentrer sur un sujet, comme on a pu le faire pendant 2 mois sur le coronavirus, les autres disparaissent quasiment tous sous le radar. Nous, ici... à Mediapolis, on en évoque toujours plusieurs. Alors après, on nous fait tout souvent reproche, mais vous n'avez pas parlé de ci, qui est très médiapolitique. François Dufour, le patron de Playback, à chaque fois, il dit « Ah, c'est trop politique, c'est pas assez médiapolitique, tout ça ». Donc il y a un sujet dont je veux quand même qu'on dise quelques mots, qui est l'incroyable flasco de la très très grande revue scientifique The Lancet, qui a été obligé de retirer un article... parce qu'en vérité, les données n'étaient absolument pas contrôlées, parce qu'ils se sont laissés manipuler par une petite start-up manifestement quasi inexistante, dont 4 personnes seulement sont salariées, dont une actrice porno, enfin c'est un gag absolument invraisemblable, et une institution aussi prestigieuse que The Lancet, des professeurs aussi prestigieux que de la Medical School of Harvard, tous ces gens-là se sont fait avoir par une sorte de quoi de course frénétique à la notoriété, à être les premiers, et ce virus a rendu même des gens sérieux fous.
C'est vraiment l'un des aspects qui m'a le plus intéressé dans la période qui vient de s'écouler. C'est-à-dire le fait que la science soit devenue l'objet du débat public, ce qu'on peut parfaitement comprendre, bien évidemment, puisqu'on a tous été touchés directement ou indirectement par, par ce qui s'est passé. Et les chaînes d'infos continuent, les réseaux sociaux, bien évidemment, ont poussé la science à se justifier en permanence. Et le phénomène Didier Raoult, sur lequel je n'ai pas, je ne dis pas ça pas par lâcheté, hein, mais sur lequel je n'ai très honnêtement pas d'avis sur le fond, mais en tout cas, j'ai un avis sur le fait que sa starisation est quelque chose qui me semble très important. Je pense que c'est vraiment l'un des phénomènes les plus importants et les plus intéressants à analyser du point de vue médiatique, du point de vue politique aussi, parce que c'est quelqu'un qui coche toutes les cases du moment, d'une certaine façon.
Vous savez
façon.
Qu'une marche vient d'être franchie cette semaine dans sa starisation.
C'est-à-dire
il vient de rentrer dans le baromètre politique.
Oui, bien sûr.
De Kantar Sofres.
Mais c'est normal.
Mais c'est normal. Il n'a pas de parti politique, il ne concourt pas aux élections. Non, mais c'est normal qu'on le rende dans un baromètre politique.
Il coche toutes les cases. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, grosso modo, peut avoir des idées qui séduisent les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il a quelque chose quand même d'assez populiste sur la forme. On le voit dans ses rapports avec les journalistes. Il a quelque chose de trumpien.
Parce que je vous interroge sur l'ancêtre, vous m'attendez sur Raoult.
Non, mais ce qu'il a... Eh oui, parce que c'est lui qui a lancé le débat sur The Lancet. Personne oui. vous n'en parleriez pas si lui-même n'en avait pas parlé.
J'entends
donc
bien.
C'est ça. Mais attendez, juste pour que je termine juste sur mon idée, c'est quelqu'un qui a un côté populiste, mais qui est très intelligent et très brillant. Vous voyez, il a les deux. Et donc, il tient d'une certaine façon les deux bouts. Et en plus, il est très intéressant. Moi, quand je l'écoute, je trouve qu'il a beaucoup de charisme, qu'il est très intéressant. Je ne voterai jamais pour lui s'il se présentait à une élection présidentielle, hein, que ce soit absolument clair, donc pas d'ambiguïté. Mais c'est quelqu'un qui, du point de vue médiatique, aujourd'hui, coche toutes les cases.
Et le fiasco du Lancet, si vous envisagez éventuellement de répondre un tout petit peu
oui,
à ma
je
question.
Sais pas, mais non, mais non, le fiasco du Lancet, peut-être qu'il aurait eu lieu.
C'est pas un problème.
Écoutez,
pour vous.
Non, c'est pas ça, mais moi je ne suis pas.
Vous parlez du populisme, on est dans du
Je ne suis pas un lecteur assidu du Lancet, donc je ne sais pas, je ne connais pas.
Vous
pas spécialiste
pas que ça
de l'histoire.
Un
de
peu
cette...
plus les experts
non, c'est
en étant populiste.
C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que ce fiasco aurait eu lieu en temps normal, sauf qu'absolument personne n'en aurait entendu parler.
Mais ça, c'est pas faux. Catherine Ney, vous voulez dire quelque chose peut-être là-dessus, non ?
Si vous voulez, oui, mais en tous les cas, publié dans le Lancet pour les grands chercheurs, c'est vraiment comme une légion d'honneur. C'est sûr que là, c'est quand on est arrivé, je veux dire, c'est le Lancet, c'est la Bible. Et d'ailleurs, le ministre Véran s'en est servi pour mieux enfoncer encore Didier Raoult, puisqu'il a mené le combat contre l'hydrochloroquine et monsieur Raoult a dit que le Lancet, l'étude avait été nommée par des pieds nickelés. Ça veut dire que ce Lancet-là, il en a pris un coup sur sa crédibilité. D'ailleurs, le patron s'est excusé. Et on ne saura toujours rien sur la chloroquine, à savoir si oui ou non, c'est un médicament qui apporte quelque chose à la maladie, au virus, lorsqu'il est pris.
On le saura par d'autres études.
On le saura, mais ça a pris bien du temps et peut-être qu'on le saura à un moment où le virus sera parti. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il avait des certitudes. Les gens qui en ont pris à Marseille ont été persuadés d'être, c'est une question de foi peut-être, d'être sauvés par l'hydrochloroquine. Et surtout, quand il dit il y a 3 semaines, mais maintenant l'épidémie est finie, ça s'en va. Eh bien, je veux dire, il a été le premier à le dire, lui.
Mais vous voyez comme vous êtes tous. Vous voyez comme vous êtes tous. Je vous interroge sur le Lancet et vous filez tous.
Eh bien,
sur
je
Raoult.
Vous ai dit.
Raoult, bien sûr.
Raoult, mais je vous ai
Raoult.
Dit.
Parce que c'est ça
vous
qui
êtes
intéresse
des Raoult maniaques.
Mais non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, mais c'est vrai qu'il pouvait, et à juste titre, quand il a dit que c'était une étude de pieds nickelés, eh bien c'est le journal lui-même qui dit on n'a pas fait une bonne étude. Donc il avait raison.
Oui, et je pense que ça pose, c'est symptomatique de l'irrationalité qui a accompagné et qui accompagne encore certains aspects des commentaires sur cette pandémie. Et quand sort une nouvelle étude, celle de Recovery, qui est censée démontrer l'inefficacité absolue. Du traitement en question, eh ben on est sceptique parce qu'on se dit, ah ben, si ça se trouve, ça va être comme le Lancet. Bon, oui. Écoutez, avec tout ça, on n'a pas parlé des alliances municipales. Et vous savez quoi ? On ne va pas en parler. Parce qu'on a pris du retard, parce que de toute façon, les médias n'en parlent pas.
Et on en parlera plus tard.
Exactement, Catherine. On en parlera peut-être même la semaine prochaine, on verra. Et en attendant, on va aller sur ce qui a focalisé toutes les attentions. Les émeutes, d'abord aux États-Unis avec Trump et le meurtre de George Floyd, et ensuite en France, après, dans quelques instants, comme on dit.
Europe 1, Mediapolis.
Comme tous les samedis, on vous retrouve, Olivier Duhamel et Catherine Ney. Aujourd'hui, dans Mediapolis, vous recevez Nicolas Bouzou, économiste, essayiste et directeur fondateur de la société d'études économiques Asterès.
Et pour commencer, écoutez. Le président des États-Unis d'Amérique, mardi.
Ces derniers jours, notre nation a été secouée par des anarchistes professionnels, des foules violentes, des incendiaires, des pillards, des criminels, des émeutiers, des antifas et d'autres. Un nombre d'États et de gouverneurs ont échoué à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs citoyens. Ce sont des actes de terrorisme domestique et nous allons y mettre fin maintenant.
Donald Trump, domestic terrorism. Et vous savez que il a dit que donc il utiliserait l'armée, il ferait intervenir l'armée fédérale si les gouverneurs n'arrivaient pas à mater ces actes. Et il s'est passé quelque chose qui était inimaginable avant, c'est que des autorités militaires, ancien chef d'état-major de George W. Bush, ancien chef d'état-major de Obama, ont publiquement exprimé leur désaccord frontal avec le président des États-Unis. L'Amérique n'est pas un champ de bataille, nos concitoyens ne sont pas l'ennemi. Martin Dempsey, chef d'état-major sous Obama, n'ai jamais imaginé qu'on ordonnerait à des soldats de violer les droits constitutionnels de leurs concitoyens. James Mattis, ancien général des Marines, secrétaire à la défense de Trump, par lui limogé. Comment est-ce que vous... Est-ce que pour une fois, Trump vous a surpris en allant encore un cran plus loin ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Mais non, justement.
Il n'y a pas de limite ?
Il n'y a bien évidemment aucune limite, d'autant plus qu'on est en campagne présidentielle. Et en réalité, ce qui s'est passé, les déclarations de Trump, elles ne font pas beaucoup bouger politiquement les plaques tectoniques, mais elles renforcent les clivages. C'est-à-dire que ce qu'a dit Trump, ses partisans trouvent que c'est absolument formidable et se disent « mais il est encore mieux, encore plus courageux, encore plus franc que ce que l'on pensait ». Et ses détracteurs disent « il est encore plus fou et plus dangereux que ce que l'on pensait ». Donc du point de vue politique, il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'au fond, soude considérablement sa base électorale.
Il n'a pas tort, il n'a pas tort.
Regardez, pas sur le fond.
Non, je parle politiquement, bien sûr, mais si vous regardez l'ensemble des enquêtes, avec toutes les limites qu'elles ont, en effet, il garde sa base électorale. Mais j'ai regardé toutes les dernières enquêtes, il a entre 6 et 10 points de retard sur Biden dans les sondages préélectoraux.
C'est pas très grave.
Il a besoin de l'élargir, sa base. Et il fait rien pour l'élargir. Peut-être tout pour la consolider, mais rien pour l'élargir. Et peut-être même qu'il la restreint, quand même. Parce que quand, pour la première fois, des républicains viennent le contrer publiquement, c'est nouveau.
Oui, sauf que devant, vous avez une campagne qui va être extrêmement, extrêmement violente, avec un candidat, Joe Biden, qui est un candidat qui en réalité est assez faible. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez raison, il est bien placé dans les sondages. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est faible aussi, qui est relativement faible physiquement. C'est-à-dire que dans les débats, on est un certain nombre, beaucoup de gens se demandent comment ça va se passer face à un Donald Trump qui est sans limite, qui est absolument sans limite et qui connaît, qui sait parfaitement jouer des médias. Donc si vous voulez, non, moi je ne suis pas du tout étonné par ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas non plus d'ailleurs étonné par le fait qu'il y ait des émeutes qui reviennent aux États-Unis, des émeutes raciales qui reviennent aux États-Unis, ce qui fait partie de l'histoire américaine. On oublie souvent quand même que les États-Unis sont un pays beaucoup plus violent que les pays européens, hein, quand vous regardez les taux d'homicide, les taux d'incarcération.
Oui, ça c'est vrai qu'on imagine mal un débat face à face Trump-Joe Biden. On se dit, est-ce qu'il va tenir le choc ? Il a l'air fatigué, il est âgé, il a 78 ans. Quand il parle, il a le souffle court. Donc il faut résister parce que face à Trump, qui est un bison, hein, qui va foncer, et lui, comment il va tenir le choc ? Et quand même, la grande tristesse pour les démocrates, c'est quand même de ne pas avoir de ressources humaines, de gouverneurs jeunes qui puissent les représenter, un nouvel Obama qui... voilà, ils n'ont personne. Et c'est d'ailleurs souvent le cas dans beaucoup de pays aujourd'hui où la relève ne se fait pas. Bon, donc aujourd'hui, c'est vrai que Trump, il perd un peu des points dans une certaine société républicaine, un peu chic et tout ça, qui commence à avoir honte. Mais dans les États où il a eu des succès, on est au contraire content d'avoir un type aussi fort qui tient le choc. Et on voit bien que malgré tout, l'économie repart. On avait dit que même le chômage, qu'on avait dit ça ferait 20%, mais ça ne fait que 13%. Donc il peut remonter. Je veux dire, nous, ça nous étonne parce que c'est contraire. Je veux dire, Trump, c'est tout ce qui... C'est étranger à nos valeurs, à ce que l'on aime en politique, au talent, la façon de maîtriser le verbe et tout ça. Mais je veux dire, les Américains sont les Américains. La violence fait partie de leur culture. Donc, rien n'est joué.
Je suis pleinement d'accord que rien n'est joué. Je suis pleinement d'accord qu'il ne faut pas regarder ça avec les lunettes européennes. Je rappelle qu'en 2016, j'ai toujours dit et répété que Trump devait gagner l'élection présidentielle, donc c'est pas du tout ça. Mais néanmoins, je suis pas entièrement d'accord avec Nicolas Bouzou quand il me répond non, il n'y a pas de limite. Je pense que Trump a déplacé toutes les limites du disciple, mais qu'à un moment, ça va trop loin. On ne sait pas quand, où est le curseur, puisqu'il l'a déplacé, mais le curseur existe encore. C'est-à-dire, s'il se promenait tout nu sur la 5e avenue avec une mitraillette et qu'il tirait partout, on ne dirait pas, il consolide sa base. Bon, il serait out. Donc, et là,
il n'a pas fait encore.
Non, il n'a pas fait encore. Mais il a fait deux choses qui ont choqué. Je parle même d'Américains conservateurs. L'histoire d'aller avec sa Bible devant l'église Saint-Georges en faisant évacuer les manifestants avec une certaine brutalité, où on a dénoncé l'utilisation de Dieu et de la religion de façon éhontée pour faire une image de com, et d'autre part, cette question d'utiliser l'armée contre les manifestants et d'assimiler tous les manifestants aux pillards. Et là, je pense que ça lui a fait perdre une partie des soutiens qu'il avait, et ça le met en plus grande faiblesse. Et donc, je pense que, contrairement à ce que d'autres disent, il a tort.
On va voir.
Quand je regarde un autre indicateur qui est ce qu'ils appellent le Trump Job Approval, c'est-à-dire l'approbation de la façon dont il préside les États-Unis, là, pour le coup, selon les instituts, la désapprobation l'emporte entre 6 et 17 points, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Donc, je pense que c'est pas dit qu'il ait eu médiapolitiquement raison. Alors, au bout de l'histoire, rien n'est fini, l'économie en effet a l'air de repartir. Vous êtes d'accord d'ailleurs, puisque vous êtes économiste, il ne faut pas l'oublier.
Bien sûr,
l'économie repart très fort.
Toujours aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les cycles sont beaucoup plus accentués, puisqu'il n'y a pas du tout il y a beaucoup moins de protection sociale que chez nous. Il n'y a pas de chômage partiel. Donc, les entreprises, les restaurants, les hôtels ont licencié tout le monde, donc ça a fait monter le taux de chômage à 15%. Et comme l'épidémie reflue plus vite que prévu, le taux de chômage diminue plus vite que prévu. Alors, attention quand même, ça laisse des traces absolument épouvantables sur la pauvreté, sur l'éloignement d'un certain nombre de gens du marché du travail. J'en profite juste parce que j'ai l'antenne, je la garde 10 secondes. Il y a aussi un niveau de détestation très important du Parti démocrate. C'est ce qu'il faut bien voir aussi. C'est-à-dire que
Biden n'est pas de Biden.
C'est vrai, pas de Biden.
Sa chance, c'est que personne ne le déteste. Il est terne, mais du coup, il n'est pas détesté. C'est déjà ça.
Mais il faut voir que la Californie, qui est un État adulé en Europe, est vue par beaucoup d'Américains comme étant l'État gauchiste, mais absolument abominable, qui ferait passer Anne Hidalgo pour une réactionnaire.
Oui, c'est peu dire. Bon. Et pendant ce temps-là, revenons aux suites du drame du meurtre de Floyd, et notamment à ses suites en France, juste après la pause.
Europe 1. Mediapolis.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney, mais avec également leur invité du jour, Nicolas Bouzou, économiste, directeur fondateur de la société d'études économiques Asterès et auteur d'Inventons la mondialisation de demain aux éditions de l'Observatoire.
Et vous allez écouter une manifestante, et si elle ne parlait pas en français, vous pourriez vous croire aux États-Unis. C'était le mardi 2 juin, une manifestante dans la manifestation pour Adama Traoré qui traite un policier noir de vendu. C'est juste quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France, Catherine Ney.
Oui, on ne l'avait jamais vu, alors que depuis très longtemps, dans la police, il y a énormément de gens de la diversité. D'ailleurs, les rapports entre policiers de toutes les couleurs, disons, il y a une bonne entente. Et ce sont des gens qui, au contraire, aident les policiers parce qu'ils connaissent le terrain, ils connaissent les communautés. Et en tous les cas, c'est pas d'eux qu'on peut, on peut pas les accuser d'être des racistes. Mais seulement, on est dans un moment aujourd'hui qui est complètement embrasé. C'est vrai que depuis longtemps, depuis quelques mois, les réseaux sociaux, chaque jour, en rajoutaient sur les exactions de la police brutale, de la police qui tue nos enfants. D'ailleurs, Camélia Jordana n'a pas parlé à n'importe quel moment. Et puis, arrive cette affaire de George Floyd. Et là, ça a donné à Assa Traoré, qui se bat depuis 4 ans pour que la justice soit faite sur la mort de son frère, ça lui a donné vraiment un souffle nouveau. Et je veux dire, les artistes se sont mobilisés. mobilisé et tout le monde s'est mobilisé. Et là, il y a maintenant quelque chose, un mouvement qui devient politique parce que Assa Traoré porte, comme elle dit, le combat des Arabes et des Noirs et elle veut renverser le système. C'est ce qu'elle veut, vous voyez. Et tous les jeunes qui sont rameutés par des artistes comme Omar Sy, par des footballeurs comme le fils de Liliane Thuram et bien d'autres, eh bien, ils ont envie de participer à un mouvement. Et on voit hier, par exemple, à Strasbourg, une femme blanche qui disait « Moi, je manifeste parce qu'avec la police, j'ai peur pour mes enfants. » Donc, ils ont réussi à dire que la police, non seulement ne protège pas, mais peut attaquer n'importe qui, y compris des enfants s'ils ne sont pas délinquants, ils ne risquent rien. Et si même s'ils sont délinquants, enfin, vous voyez. Donc, c'est un mouvement qui est très, très, très dangereux, qui arrive là, on va voir ce que va donner les manifestations aujourd'hui dans plusieurs villes et notamment à Paris, mais on voit bien que si jamais, ça c'est la trouille du préfet de police, je peux vous le dire, et même du ministre de l'Intérieur, si jamais il y a une bavure, alors qu'ils vont chercher la bavure, si jamais un jeune était, je ne sais pas, blessé, tout ça, mais je veux dire, on ne sait pas comment ça peut flamber. Or, ça arrive, si ça arrivait, je ne dis pas que ça arrive, mais ça peut arriver, c'est la crainte du pouvoir, eh bien je vais vous dire, la France, après, les gilets jaunes, la retraite avec les grèves et tout ça, le confinement. Et alors qu'elle est aujourd'hui dans une situation mais très, très, très difficile, à un moment, la France bascule dans une crise économique, financière d'une ampleur inédite, si en plus se rajoutent des manifestations de la sorte, ben là, franchement, là, il y a de quoi être très, très inquiet.
Nicolas Bouzou, vous pensez qu'on est au bord de l'embrasement ou qu'il y a un risque fort d'embrasement, un peu comme aux États-Unis ?
Il y a toujours un risque d'embrasement en France, mais il est de nature très différente de ce qui se passe aux États-Unis. Ça n'a absolument rien à voir. Les États-Unis ont un vrai problème, il y a une vraie question de racisme aux États-Unis parce que c'est un pays qui s'est fondé sur l'esclavage et que c'est très récent en réalité dans l'histoire. Tocqueville raconte déjà quand il revient des États-Unis dans les années 1830, il explique que dans les États dans lesquels on a supprimé l'esclavage, au fond la condition des Noirs reste la même que celle des États dans lesquels on pratique encore l'esclavage et que c'est quelque chose qui poursuivra les États-Unis pendant des siècles. Donc il avait parfaitement vu ça et donc ça reste au cœur de l'actualité américaine, si je puis dire. En France, c'est pas du tout la même chose. En France, il y a du racisme dans la police, comme il y a du racisme absolument partout, comme il y a sans doute des journalistes racistes sur Europe 1, comme il y a sans doute des...
Ni plus ni moins.
Mais bien sûr, regardez, c'était très intéressant de voir, vous avez passé, je pense d'ailleurs au passage que les médias en ont trop fait avec cette séquence de cette manifestante qui s'en prend à un policier noir. Mais ce que ça montre...
Pourquoi trop fait ?
Parce que je ne suis pas sûr que ce soit significatif, parce que vous avez toujours montré la même personne, c'est une personne, et donc
vous
je ne sais pas
toujours,
si c'est représentatif. Non, mais les médias, je vous mêle à tous dans le même sac, ce qu'il ne faut jamais faire, bien évidemment.
Merci, c'est gentil.
Mais bon, attendez, ça a quand même un intérêt, c'est que ça montre que dans une manifestation antiraciste, il y a des gens racistes. Puisque cette personne, elle est raciste, puisqu'elle interpelle quelqu'un.
Elle est racialiste, je dirais.
En se basant sur sa couleur de peau. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le racisme, qui est toujours condamnable, dans la police, l'est encore plus, puisque la police, c'est l'outil de l'État de droit pour lutter contre l'arbitraire. Or, le racisme, c'est l'arbitraire. Et donc, toute personne raciste dans la police doit en être tout de suite et définitivement exfiltrée. Ce que peut-être l'on n'a pas fait suffisamment en France, notamment parce que on manque de transparence sur les actes racistes commis par la police française.
Vous savez que vous allez m'attirer de gros ennuis, Nicolas Bouzou.
Oui.
Hein, je vous dis tout de suite. Ah oui, parce que moi j'ai une obligation de lancer les pauses avant 10h30 et pris par l'élan, je vous ai écouté, je l'ai laissé passer. Bon, si je suis licencié, vous me retrouvez du boulot.
Oh, allez, je vous paierai.
Dans quelques instants, on se retrouve.
Nicolas Bouzou, économiste, essayiste et directeur fondateur de la Société d'études économiques Asterès, est votre invité ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis.
Et Nicolas Bouzou nous parlait il y a quelques instants il y a quelques minutes de la reprise aux États-Unis. Maintenant que la crise sanitaire s'estompe, on commence à s'inquiéter un peu plus, et probablement à juste titre, de la crise économique et sociale, d'autant que les prévisions de croissance sont relativement catastrophiques pour la France.
Il est évident que moins 11% de croissance, c'est-à-dire que nous perdons 11% de richesse. C'est ça que ça veut dire, moins 11% de croissance. Mais en même temps, les Français voient que nous n'avons pas augmenté les impôts. On continue à emprunter sur les marchés financiers sans difficulté. La signature de la France est respectée. mais en même temps, il voit des chiffres vertigineux. 220 milliards d'euros de déficit de l'État, 50 milliards d'euros de trous de la Sécu. Effectivement, ce sont des chiffres qui peuvent donner le vertige.
C'était le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérard Darmanin, sur France 2, jeudi. 11%, c'est pour faire peur et montrer que finalement on a fait mieux, ou 11% c'est plausible?
On aura peut-être une meilleure nouvelle, c'est-à-dire qu'on sera entre moins 8 et moins 12. Quoi qu'il arrive, de toute façon c'est la récession la plus forte que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il faut remonter à 1941, et si vous enlevez les guerres, il faut remonter à ce qu'on appelait la première grande récession, qui est celle de 1875. Donc de toute façon, parmi nos auditeurs, personne n'a jamais connu un tel choc économique. Maintenant, la question c'est à quelle vitesse on en sort. C'est une crise qui n'est pas endogène, qui est liée à une crise sanitaire. Vous l'avez très bien rappelé, à partir du moment où la crise sanitaire s'estompe plus rapidement que prévu, pourvu que ça dure, je touche du bois, mais en tout cas, si ça se confirme, on sortira de ce trou plus vite que ce qui était prévu. Mais le trou, il est incroyablement profond, c'est ça ce qu'il faut bien avoir en tête, et donc on mettra forcément, je pense, plusieurs années à s'en remettre, et on aura une onde de choc. Moins 10% sur le PIB, ça laisse forcément une onde de choc en termes de faillite d'entreprise, en termes de chômage. Mais, voyez, on peut mener de bonnes politiques économiques. Et d'ailleurs, pour l'instant, je trouve que la politique économique qui est menée par le gouvernement est bonne. Elle était bonne pendant la crise.
C'est une politique socialiste, quand même.
Ah oui, bien sûr, une politique keynésienne. Oui, ouais, absolument.
Vous êtes libéral.
Oui, mais absolument. Ouais. Mais vous savez, j'ai la très grande prétention d'assumer le fait d'être doté d'un appareil cérébral qui me permet de m'adapter aux situations.
C'est bien.
Et donc, quand on est dans une récession extrêmement, extrêmement forte, avec sans doute ce que les économistes appellent une insuffisance de la demande, il faut relancer la demande, et donc j'ai été...
Donc il faut être à gauche quand ça va mal et à droite quand ça va bien, c'est ça?
Oui, de toute façon, on va avoir besoin d'être intelligent surtout, donc oui. Il va falloir laisser les entreprises tranquilles, il ne faut pas surréglementer pour les laisser justement pouvoir faire de la croissance dans cette période de reprise.
Et pour financer tout ça,
aujourd'hui...
Il faut continuer la dette ou il faut
continuer la dette? Non.
La TVA?
Non. Surtout pas augmenter la TVA. Alors justement, ça c'est le genre de... C'est ça qui m'inquiète, vous voyez? C'est les bêtises.
Ouais.
C'est ça ce qui pourrait casser la reprise, c'est qu'on fasse des bêtises. Alors, les impôts, mais par pitié, on n'en parle pas. Rien.
Même
voilà.
Pas une petite tranche à 50% rien, pour la symbolique.
Rien, même pas pour la symbolique, etc. Ça, c'est pour la campagne présidentielle. On verra ce qu'on fera après 2022. Mais pour la majorité actuelle, c'est le conseil que je leur donne, qui, évidemment, un conseil qui ne sera pas entendu, hein, je suis tout à fait lucide, mais ne parlez pas des impôts. Voilà.
On ne fait que ça, vous savez.
C'est pour ça que vous dites que mon conseil n'est pas entendu.
Qu'est-ce que c'est, selon vous, l'invraisemblable symbole français?
C'est l'ISF?
Oui, invraisemblable symbole français, c'est l'ISF.
Ah oui, bah oui, j'avais
et
même
donc,
pas.
Si vous êtes à gauche, il faut rétablir l'invraisemblable symbole français. Et si vous êtes à droite, il ne faut pas y toucher. C'est vraiment pas ça le débat.
Non, mais évidemment, mais je termine juste de répondre sur la question de la dette. La dette, elle augmente très fortement, mais la dette, c'est fait pour augmenter dans les périodes comme la période que nous traversons. Et donc, il faut l'assumer. Et cette dette, on va rendre solvable nos finances publiques par la croissance économique. Donc ça, il faut se retrousser les manches, il ne faut pas serrer la ceinture, il faut se retrousser les manches, et grâce à l'action de la Banque Centrale Européenne.
C'est Nicolas Bouzou qui parle, hein, c'est pas moi, donc s'il vous plaît, les mails, les SMS et autres, que c'est absurde ce que je dis sur la dette, non, c'est Nicolas Bouzou. Et Nicolas Bouzou qui a...
Mais vous pensez la même chose.
Moi, je ne le pense pas, je t'arrange. Et autre sujet qui anime le débat économique et social, celui des relocalisations. On en parle dans un instant.
Europe 1. Médiapolis.
La suite de Médiapolis est avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney. Jusqu'à 11h, vous recevez l'économiste Nicolas Bouzou, directeur fondateur de la société d'études économiques Asterès, qui vient de publier aux éditions de l'Observatoire « Inventons la mondialisation de demain ».
Let us make in France, en France. Écoutez, président de la République.
Le deuxième axe d'action consiste à investir pour produire en France les véhicules de demain. Continuer à investir, continuer à innover sur le sol français, c'est indispensable pour préserver notre empreinte industrielle, nos emplois et en créer de nouveaux. C'est en France que le véhicule propre qui équipera l'Europe et le monde dans les années à venir s'inventera et se produira.
Emmanuel Macron, lors de la présentation du plan de soutien à la filière automobile française chez Valeo à Étaples, c'était mardi 26 mai. Alors, il a raison.
C'est pas le président de la République qui décide des relocalisations.
Non, c'est le président de la République qu'on a écouté. Hein.
Non, j'entends bien. Mais il évoquait la question des relocalisations. C'est pas lui qui décide des relocalisations, c'est nos auditeurs, c'est les consommateurs. Si on fait revenir des usines avec de l'argent public, de l'argent privé, et qu'on produit des choses qui ne sont pas achetées par les consommateurs français parce que c'est trop cher, ou parce que le rapport qualité-prix jugé comme étant pas assez bon, on aura perdu tout cet argent. Donc je ne dis pas que c'est la thématique des relocalisations n'est pas bonne. Il peut y avoir des relocalisations économique parce qu'on va considérablement moderniser nos usines, on va aider les entreprises à acheter des robots, des imprimantes 3D, les équiper en numérique, en intelligence artificielle, et là on pourra produire des choses de très bonne qualité en France, mais là pour l'instant on n'y est pas, donc cet effort, il faut le faire.
C'est un effet médiapolitique du Covid que d'être obligé de dire
bien
on
sûr,
va relocaliser.
Bien sûr, mais alors oui, mais il y a quand même quelque chose qui est très justifié sur le fond, mais qui n'est pas un sujet économique. Qui est un sujet relatif à l'idée qu'on se fait de l'indépendance nationale. C'est-à-dire le fait que 90% de la pénicilline, un antibiotique de base, soit produit en Chine, ça, c'est pas un problème économique, parce qu'on produit d'autres choses. Mais c'est un problème d'indépendance nationale. Et donc, en effet, on peut être fondé à dire on va produire sur le sol français des principes actifs, des produits de base dont on a besoin, notamment dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors pour ça, il faut une loi. On l'a fait, hein, c'est tout à fait possible. On protège le capital d'entreprises des secteurs jugés dits stratégiques. On peut parfaitement avoir une loi qui oblige des grandes entreprises à produire un peu de choses essentielles sur le sol français. Mais c'est pas un sujet économique, c'est un sujet d'indépendance nationale.
Catherine Ney.
Oui, par exemple, on a dit le monde sera plus comme avant. Avec les médicaments, il faut relocaliser la fabrication. Bon, en France, l'an passé, les exportations représentaient 33 milliards d'euros contre 83 milliards en Allemagne, parce que le secteur réclame depuis des années au gouvernement des incitations, parce que la France est nettement moins avantageuse fiscalement que ses voisins. Et c'est pour ça que la France aussi va chercher les produits pour faire ses médicaments ailleurs, parce que c'est moins cher. Parce qu'en France, Nicolas Bouzou le sous-entend, c'est que le consommateur qui veut payer pas cher est vraiment l'ennemi du travailleur, l'ennemi de ceux qui travaillent dans les usines. C'est comme ça. Et donc, à cause toujours de la fiscalité. Mais je dirais que dans cette crise, on a vu que la France manquait de médicaments, et que c'était très embêtant, mais qu'en Italie, par exemple, où il y a une grosse activité pharmaceutique, l'industrie est très forte, eh bien, elle n'a pas eu de problème, elle n'a pas eu à importer des médicaments d'autres parties du monde, voyez. Donc, il y a une politique française qui est différente de l'Allemagne et de la France. Donc, c'est aux Français aussi, c'est une question toujours de fiscalité, c'est toujours la même chose.
Il y a un sujet de fiscalité sur les entreprises en France, c'est ce qu'on appelle les impôts de production. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que le samedi matin, ça va faire fuir tout le monde, mais ce sont des impôts qui sont propres à la France dans la mesure, en tout cas, où ils sont très importants pour les entreprises, où ils ne sont pas du tout liés au résultat, à la performance de l'entreprise.
Toute entreprise sur son chiffre d'affaires c'est a ça. Un impôt, qu'elle fasse des bénéfices ou pas.
Exactement. Et donc ça, on a toute une littérature qui montre que c'est catastrophique pour la compétitivité, que c'est catastrophique pour l'emploi. Le problème, c'est qu'on les a...
Comment vous expliquez, alors que tout le monde chez vos amis, enfin beaucoup de gens chez vos amis économistes disent ça, que Bruno Le Maire a dit ça je ne sais pas combien de fois, comment ça se fait qu'on n'y touche pas à ça? Qu'est-ce qu'elle
est? Parce que ça représente des montants qui sont très importants, parce que ça finance les collectivités locales, que les collectivités locales, elles ont aussi besoin d'argent.
Il faudrait remplacer
donc,
par quoi alors?
Et bien justement, il faudrait faire une réforme de la fiscalité des collectivités locales, avec des bases fiscales pour les collectivités locales.
Ouais, qui soient beaucoup... truc,
donc, mais donc c'est une réforme colossale, immense, et c'est pas quelque chose qui s'improvise en trois jours, même parce qu'on a connu une épidémie extrêmement...
Parce que là... Un des événements politiques et peut-être médiapolitiques aussi de la semaine, c'est l'histoire du président de la République qui écrit aux trois présidents au président de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil social, économique et environnemental pour essayer de les associer à un nouveau projet, etc. On peut imaginer que par ce biais-là, tout d'un coup... On fasse des réformes aussi profondes que ça et
Moi, je pense qu'il peut y avoir des consensus en ce moment. Regardez, vous-même, vous me disiez tout à l'heure, vous proposez, vous moquiez gentiment de moi en disant on a l'impression d'entendre un gauchiste quand je parlais de relance keynésienne. Ben, je suis capable de faire cette concession et les gauchistes dont je ne fais pas partie doivent être capables, j'espère. Alors, pêche peut-être par excès de naïveté, mais je pense que des gens de gauche sont peut-être capables aussi de considérer, d'ouvrir les yeux et de considérer que les impôts de production sont mauvais.
Oui,
hein. Donc j'espère qu'il y a des consensus possibles. Oui. En tout cas, j'espère...
Comme des proches intelligents, bien que de gauche.
Oui, mais l'inverse est vrai. On peut dire aussi intelligence bien que de droite ou intelligence bien que libérale. Allez, pour aller contre mon camp.
Bon, alors là, vous avez fait un tel effort que pour souffler, on va faire une petite pause avant le dernier sujet qui est, alors, pour du média politique, ça l'est en diable.
Jusqu'à 11h, c'est Mediapolis sur Europe 1. Ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney, vous êtes avec l'économiste, essayiste et directeur fondateur de la société d'études économiques Asterès, Nicolas Bouzou.
Et comme chaque samedi, à la fin de l'émission, nous allons nous tourner vers l'international, puisque Alice Baudry, directrice de la communication et du marketing à l'Institut Montaigne, surveille les médias internationaux pour nous. Et elle a choisi d'attirer notre attention sur un épisode médiapolitique au cœur de l'actualité, autour du mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, nous concerne, vaut le coup, matter, compte, aux États-Unis. Une op-ed, c'est une opposite editorial, c'est dans les pages idées, débats, etc. On laisse intervenir quelqu'un qui n'est pas forcément sur la ligne du journal. A été publié mercredi sur le site du New York Times. C'est une tribune intitulée « Envoyez les troupes ». Est signé par Tom Cotton, sénateur républicain de l'Arkansas. Comme son titre l'indique, l'idée de la tribune est de rétablir l'ordre dans les rues par la force et une mobilisation de l'armée. Cette tribune a d'abord généré une grosse polémique sur les réseaux sociaux, les internautes questionnant la ligne éditoriale du journal et attirant l'attention sur les problèmes de sécurité pour les journalistes africains-américains au sein de la rédaction. Et après un tollé du personnel du New York Times, plus de 800 membres du journal ont signé une lettre de protestation contre cette publication. Le média avoue que le processus d'édition a en effet été précipité et James Bennett, le rédacteur en chef de la section d'opinion, a déclaré lors d'une réunion avec des membres du personnel qu'il n'avait en effet pas lu l'essai avant sa publication. La tribune est actuellement à l'étude puisqu'elle est également accusée de fake news, des informations erronées comme par exemple la description du rôle de l'Antifa pendant les manifestations. Alors, ma question, Nicolas Bouzou, est-ce que vous mettez-vous dans la peau d'un journaliste du New York Times ? Vous êtes journaliste du New York Times et une tribune comme celle que je viens d'évoquer est publiée. Vous dites, mais arrêtez, on a le droit dans le journal de donner la parole en tribune à qui on veut et il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ou vous dites, on ne peut pas laisser la parole à quelqu'un qui est radicalement sur la ligne opposée et en plus qui met de l'huile sur le feu dans la période actuelle.
Non, il faut laisser la parole à des gens qui sont sur la ligne opposée. Surtout un journal comme le New York Times qui est très politique, qui a une ligne politique extrêmement claire, très à gauche, et c'est très bien comme ça. Et donc, je trouve que c'est très intéressant. Puis, je vais vous dire, quand on écrit, moi, quand Marianne me demande un article, je fais un article outrageusement anti-Marianne. Voilà, parce que c'est ça qui est très, très amusant. Et j'ai peut-être d'ailleurs la faiblesse de penser que c'est aussi pour ça qu'il le demande. Donc, je pense que cette tradition des op-end, elle existe aussi en France. Elle est très positive. Ça anime le débat public. Et donc, je pense qu'on a absolument besoin de ça.
Et ben voilà, Nicolas Bouzou ne ferait pas partie des 800 membres du New York Times qui ont protesté, mais de la petite minorité libérale jusqu'au bout, y compris politiquement et médiapolitiquement. Pour terminer, en chanson, comme d'habitude, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que Jean-Luc Arblade a d'abord repéré, notre réalisateur, a d'abord repéré, après le meurtre de George Floyd, qu'un jeune afro-américain, Kidron Bryant, avait posté la semaine dernière sur les réseaux sociaux une vidéo de lui en train de chanter son désespoir a cappella, je crois, son désespoir face à la discrimination aux États-Unis. Et puis, ça lui a rappelé une chanson de Stevie Wonder en 1973 qui s'appelait Living for the City. Et donc, il a fait un mixage entre les deux et on commence au début avec I'm Young Black Man de Kidron Bryant.
I'm a young black man doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind, every day I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble. We've had enough struggle.
New York, just like I pictured it. Skyscrapers and everything. The jury of your peers, having found you guilty, 10 years. What?
Come on, get in that cell.
I just wanna live. God protect me. I just wanna live. I just wanna live.
A boy's born in hard time Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city.
Depuis quelques minutes, c'est Stevie Wonder, Living for the City, 1973. Et juste avant, a cappella, c'était Kid Rone Bryant, ce jeune garçon qui a posté la semaine dernière sur les réseaux sociaux une vidéo de lui qui disait qu'il voulait juste vivre, I just want to live, en hommage à George Floyd. Cette émission se termine, elle a été donc réalisée par Jean-Luc Arblad qui nous a fait cette belle mix. Beau mixte musical final, préparé par Capucine Patouillet. Je l'ai animé avec l'excellente Justine Holman. Si un jour cherche du travail, je la recommande, Justine Holman. Elle est absolument formidable. Et notre invité, c'était Nicolas Bouzou. Vous pouvez écouter l'émission au podcast sur europe1.fr à samedi prochain.
Et comme tous les samedis, bien sûr, Olivier, il y a Laurent Mariotte qui arrive. On va rejoindre les bons vivants qui, vous vous en doutez, vont parler d'un sujet d'actualité, la réouverture des restaurants. N'est-ce pas, Laurent ? Bonjour.
Bonjour, Catherine et Olivier. Bonjour, Justine. Oui, ce matin, au menu, un dossier complet sur la réouverture des restaurants, vous pensez bien. Quel avenir pour les restaurants gastronomiques ? On va en parler. Et puis la bonne vivante Camille Chamou viendra partager un plat made in Normandie avec nous. Voilà, vous savez tout, à tout de suite.
À tout de suite, Laurent.